création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats aux yeux rouges marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. C'est avec ces phrases du grand troupeau de Jean Giono qu'Isabelle Souquet et Jean-Marie Porcher ont exprimé leur désir de retourner sur la départementale RD18, là où l'offensive conçue par le général Nivelle au printemps 1917 conduisit à une si grande tuerie que les soldats survivants virent nombre d'entre eux se mutiner. Pour les paysans qui vivent là, comme pour celui qui a réalisé des prises de son sur les terrains de guerre du monde entier, ce soir, les portes du temps s'entrouvrent. Isabelle Souquet, Jean-Marie Porcher, Lionel Quentin, empreinte sur le chemin des dames, création On Air.
Nino, tu montes pas, mes fleurs. Les orchidées, tu les as tombées. C'est pas possible.
Ça fait... Que je suis mariée. Ça fait 37 ans que je suis là. Tu en es bien.
C'est calme.
Oui. Moi, ouais, j'aime bien. Il n'y a pas grand monde. Je m'occupe un peu par beaucoup de personnes. Personnes âgées. J'aide mes prochains, comme je dis. Voilà. Et voilà, je travaille un peu partout. Je travaille à la caverne, je fais une femme de ménage. Je m'occupe des personnes âgées. Puis des chiens. Ah, c'est vrai, Georges. Oui.
Il s'appelle Georges.
Non, t'es pas beau quand tu es beau. Non. Quand je suis arrivée ici, je n'osais pas marcher dans les bois parce que je croyais que je marchais sur les morts. Et c'est vrai qu'on marche sur les morts, de toute façon. Hein. Partout où on va, comment ça s'appelle ? Au Beaumarais, sur le Chemin des Dames. C'est vrai que. Il y a beaucoup de morts ici.
On s'habitue ?
Pas trop. Non. Pas trop. Quand on parle de la guerre, j'aime pas trop parce que c'est passé, mais. Notre famille, elle a battu ici. S'est battue ici, ben, je sais pas beaucoup, mais bon. Mes parents sont morts jeunes et je sais pas si mes parents habitaient à Pont-à-Verre. Et on parle beaucoup de la guerre. On parle. Mon mari montre beaucoup de photos. Une photo de d'anciens crânes. Vous avez vu les photos?
Pas beaucoup.
Non.
Un petit peu quand même.
Oh. Regardez si vous voulez.
Ah, vous avez fait tout un album.
Mon mari, oui. Ma mari aime bien parler tout seul. Il parle des heures et des heures. Là, c'est vieux crayon en haut. D'ancien crayon.
Ah, ça, c'est l'église dont on voit plus que les traces voilà. Sur le sol, c'est
ouais.
Ça.
Mais il y a encore des morts, hein. Il y a encore des cimetières autour. Hein.
Ouais.
Il y en a même des nains qui viennent fouiller.
Dans le cimetière?
Ah ouais.
Ça vous arrive de croiser des Allemands ici?
Oui.
Ça va, l'échange est possible?
Pas trop, pas trop. Ils parlent, ils veulent visiter la caverne. Alors, ils en voient. Et sinon, il y a beaucoup d'Anglais, des Suisses, des Africains. Il y en a un qui vient souvent, c'est, il vient de Paris. Il vient tous les 15 jours à la caverne, il fait la marche. De la caverne jusque sur le plateau, il fait ça. Il cherche des vestiges, des bombes, des trucs comme ça.
Mais il vient comme un pèlerinage un peu.
Voilà,
il
oui.
Vient un peu chercher.
Chercher le pèlerinage, voir s'il connaît des monde, du monde, dans du crâne, dans les vieux cimetières.
Oh, c'est gentil.
Il a fait la guerre dans la ferme, là. Il se rappelle qu'il est venu dans la ferme là et il lui raconte.
Impression personnelle, dit-il. Nous étions tous chargés d'un tablier à multiples poches rempli de grenades. dont les goupilles de certaines étant mal fixées, s'ouvrir et percuter, ce qui provoqua la mort de certains camarades devant nous. Quand même, il n'en est pas question dans le journal de marche et d'opération, pas plus que dans le livre d'or du régiment. Certains jetteront leur tablier chargé de grenades. C'est à ce moment que le commandant intervint au-dessus du boyau d'acheminement pour dire « Conservez votre tablier et vos grenades, vous en aurez besoin là-haut. » C'est impressionnant, allez. Hein. Même autant d'années après, c'est vraiment...
Oui, hein. Mais il y a pas qu'il est revenu une fois. Et puis après, bah, il a grand écrit des trucs comme ça. Il a écrit, puis il a donné des lettres à la mairie et tout. Non, sa mère.
Georges,
Nino, entrez, monsieur. Il n'y a pas trop de ménage, hein, pas trop de faire. Pas vous inquiéter. Georges, Nino, t'as oublié, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve?
Oh là là.
Nino.
Ça, c'est tout ce que vous avez trouvé vous-même en vous promenant par ici.
Pas tout, parce que j'ai des amis qui m'ont donné, mes frères. Mais...
Il y a beaucoup de fils. Ah, Georges, Nino. Georges.
Là, vous avez un peu de tout, en fait.
Oui.
Alors, il y a des choses que je reconnais un peu. Là, ça, c'est des têtes de fusées et d'obus.
D'obus, ouais.
Une grenade. Des balles. Mm. Mais il y a des choses, je ne sais pas du tout ce que c'est. En
ça, c'est la baïonnette.
Ouais.
La baïonnette, il y en a deux. Celle-ci.
Et il y a un couvercle de paquets de cigarettes.
Oui, là.
De Baden-Baden. Spleitner.
J'en ai deux. Ça, c'est mes frères qui ont trouvé ça.
Là, des complet. Il y a le masque, il y a l'étui du masque, la sangle pour le porter, la cartouche. Il est complètement intact.
Ouais. Ça, c'est mes frères quand ils travaillaient dans des vieux greniers chez des gens de personnes âgées. Ils trouvaient ça, ils les ramenaient.
Oh là là, mais vous avez trouvé des. Un tas de choses.
Ça, c'est mes amis, les deux Alain, qui m'ont donné tout ça. Quand j'ai eu mon cancer, ils m'ont offert tout ça.
Ce que je trouve formidable, c'est les petits encriers en verre bleu, qui sont non seulement très
ça,
jolis,
mais... J'ai trouvé ça dans les champignons, où j'étais aux champignons, j'ai trouvé ça.
Dans les bois, comme ça?
Oui, comme ça. Ça commence à remonter. Et c'est vrai que tous les ans, on a plus, en plus. On ramasse plein de trucs, ça remonte. Ah, moi, c'est pas pour moi, c'est pour mon gamin, mais mon mari, parce que mon mari il adore ça, il adore tout ce qui est guerre. Et des fois, il raconte mieux que moi parce que moi je connais pas trop tout ça. Moi, mais je vais pas le dire à personne, je dis parce qu'on n'a pas le droit. Bon, c'est vrai, ils sont vides des grenades, hein, parce que moi j'en veux pas non plus. Hein, parce que moi j'ai peur de tout ça. Mais à la ferme, vous avez vu la ferme? Elles sont encore pleines. Hein. Ils en trouvent encore. Hein. Des fois, ils se promènent avec. Des fois, les tracteurs, ils sont avec des bombes devant ou derrière. Ils se promènent avec. Ils sont pas... Ils laissent au bord de la route. Et puis, les gens, ils prennent ça.
Et au milieu de tout ça, il y a un coquillage.
Oui. C'est ma petite fille qui a mis cela de bord parce qu'elle voulait les petits coquillages, genre les amis.
La vie d'aujourd'hui qui se mélange avec la vie d'hier.
Voilà, ouais.
Ben, un grand merci de nous avoir montré tout ça, montré ces photos, montré votre placard, votre vitrine à trésor.
Ah oui, bah, bien sûr.
Mon gamin qui se lève.
Au revoir, madame.
Au revoir. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Bonne
journée. Elle est trouvée.
Départemental 18, kilomètre 7. Une stèle au bord de la route en forme de croix. Marcel Duquesnois, de Calais, âgé de 20 ans, aspirant au 350e régiment d'infanterie. En souvenir de notre fils, disparu le 6 mai 1917, dans le bois en face.
C'est un gros calibre.
Ouais, c'est un gros coup de calibre.
Je vais chercher 2-3 outils. Sortir la munition.
Piolet.
Ouais. Ouais, tu prends pelle-pioche.
Ouais, pelle-pioche et le petit
piolet. Le petit
piolet. Ouais. C'est un beau bébé, hein.
Oui, en présence d'un gros calibre, on va découvrir complètement la surface de l'obus pour pouvoir parfaitement l'identifier.
Ouais, ouais, ouais. Pour le dégager déjà, pour voir exactement ce que c'est.
Il est quand même mou. Attention, on va essayer de découvrir l'ogive, déjà voir un peu de quoi il s'agit.
Ouais. Ouais, si, ok, la ceinture, ouais. J'avais pas vu.
Okay. Ouais, t'as vu la ceinture?
Ouais, j'avais pas fait gaffe, il y avait trop de boue. Du moins trop de boue, trop de terre.
Donc en fait, hein, c'est comme un jeu d'indices. Hein. C'est vraiment par rapport à. Chaque nationalité a ses caractéristiques propres, donc on va être capable de déterminer voilà, la nationalité, le calibre et le chargement de cette munition.
Ah, je suis pas loin de la fusée.
Elle est pas loin là.
Donc là on a découvert le corps de la munition en prenant pelle-pioche. Et là maintenant, pour des raisons de sensibilité, en fait on va finir le travail à la main. Parce qu'on s'approche en fait de l'amorçage de la munition.
Je suis pas bon. Ah, si, si, ok, je suis au bout là. C'est bon.
Attends, on va essayer de le remplacer.
C'est une machine qui n'a pas pété. Hein.
Alors, c'est un obus, on peut s'apercevoir qu'il a été tiré.
Ouais.
Donc c'est le premier indice parce qu'on voit que la ceinture est rayée. Donc il a été extrait de son canon.
Ouais.
Et pour autant, il n'a pas fonctionné. Alors après, les dysfonctionnements, c'est aléatoire par rapport au fonctionnement, au mécanisme des fusées de l'époque, à aussi le fait que le sol soit très meuble et que le fonctionnement nécessitait une très grande force d'impact.
Ouais. Et ça, si ça pétait, ça serait un beau cratère. Hein.
Ah oui, énorme. Ouais.
Comme la dernière fois, la bombe de tranchée, là. Et tu nous dis, bah, tous les habitations du secteur, il n'y en a plus. Hein.
Tout à fait.
On ne se rend pas compte. On se rend pas compte.
C'est ça, ma vie. À la base, c'est vraiment l'origine, c'est bien poursuivi.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment les premières générations d'obus, d'anciennes générations, qui ont été adaptées avec des fusées voilà, qui s'amélioraient au niveau technique. Donc là, c'est un système, c'est bien un obus français, avec le système dit siège et montagne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, parfois, vous voyez, même avec le nombre d'années, en fait, on voit c'est encore des couleurs qui sont persistantes,
ouais.
Avec là du rouge pour indiquer certaines conditions, des marquages spécifiques à des fusées. On voit même encore le marquage à froid, voilà, sur ces fusées.
Ouais, puis le temps que c'est dans la terre, quand même.
Avec toutes les indications. Voilà, ouais. Ça n'a pas bougé.
grenades par ici? T'entends des grenades par ici?
Non.
Y'en a pas? D'où est là-bas? Attention, hein.
C'est le tas à l'entrée là?
Tout là-bas, ouais. D'accord.
Là, je pense qu'on est sur un volume à peu près de 200 grenades, voilà, de la première guerre, avec différentes nationalités, hein, comme on le voit là par exemple. Là, c'est caractéristique, une grenade allemande.
Parce qu'elle est très ronde.
Voilà, bon, là, ça s'appelle Kugelhorngranate. Là, on a une, ce qu'on appelle la poire, hein, chez les Françaises, la P1. Alors, on voit qu'on a des grenades, en fait, à peu près dans tous les états. Là, hop, on passe chez les Britanniques, avec la grenade Mills. Ça, c'est des grenades dites grenades à main. Et là, pour autant, on voit aussi qu'on a des grenades dites à fusil. Voilà, c'est un tromblon qui se disposait sur le fusil pour améliorer la portée des grenades. Voilà.
Monsieur Boisseau, le propriétaire des terres.
Bonjour. Monsieur.
Non, il est
compté.
Non, ça, non, il les sépare.
Alors tout ça, c'est ce que vous avez trouvé en combien de temps?
Cette année, sur une parcelle de 17 hectares.
Vous faisiez quoi?
Des pommes de terre, oui.
Et donc c'est au ramassage?
Au ramassage des pommes de terre, oui, ça. Et les pommes de terre, vous ramassez tout. Betteraves aussi, on ramasse la ferraille, mais pas comme les pommes de terre, où les chaînes sont très étroites. Voilà le problème. Mais vous savez, toute la ferme, c'était comme ça. Hein. Toute la ferme, ici, la ville au bois, c'était... Ça a été le front, hein, c'est-à-dire avancer, reculer, parce que le bois des buttes, c'est un endroit, mais les attaques et tout ça, ça allait beaucoup plus loin, hein. C'était le front, quoi. C'était le bout du chemin des dames. Hein. Donc, d'abord, c'est resté zone rouge longtemps, et c'est resté 20 ans zone rouge, et après, des tranchées partout et tout ça. Et après, il y a des trains de ferraille qui sont partis d'ici, des trains complets de ferraille. Quand on a commencé à déminer, enfin à nettoyer, il était interdit de cultiver. Le voisin, là, bon, c'est plus, c'est fini, mais le grand-père, là, Oudry, il avait un tracteur avec 4 roues de fer pour pas crever, quoi. Pour pas crever les pneus tout le temps. Je sais pas si je m'explique bien. Tellement il y avait de piquets, des piquets. Mais ça, vous avez ça à Craonne, hein. Le chemin des dames, personne n'en voulait. Hein. Les familles de propriétaires terriens déconseillaient de racheter des parcelles là pour se faire tuer. Pas la peine. Hein. Ben, il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident grave, hein, sur le chemin des dames, à côté de la caverne du dragon. Là. Il y a un type qui cultivait avec des gros socs qui fouillaient la terre assez profond. Et puis il a attrapé un crapouillot, ce qu'on appelait un crapouillot, qui a explosé. Il a explosé le semoir, complètement. Il se met des poids, c'était au printemps, il se met des poids, il y avait des poids qui ont été projetés à 80 mètres. Et ça a été, Groupama s'est retourné contre le... Non, mais ça a été le dernier sinistre qui a été payé par les dommages de guerre. Voilà. Le chemin des dames, il est resté très longtemps, comment dirais-je, un peu sous le silence. Hein? Pourquoi? Ben, tout simplement, il y a eu une défaite, alors qu'à Verdun, c'était une victoire. Donc, il n'y a pas eu d'investissement de fait sur le chemin des dames. On cachait une défaite, si vous voulez. Et puis, les mutineries. Les mutineries, ça a été quand même longtemps caché aussi, hein. Là seulement qu'on s'occupe des soldats qui ont été fusillés pour n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, ils avaient déserté, mais bon, le règlement, le tribunal militaire, hein, tout ça, c'était pas... parce qu'ils étaient arrivés en retard. Il y en a un, il avait été... Pas pour ces quatre qui ont été fusillés. Mais enfin, comment c'est passé à Roussy pour qu'on fusille quatre types qui venaient prendre leur poste. Ils étaient en cantonnement à, au-dessus de Roussy, dans une ferme. Et à 4h de l'après-midi, ils devaient reprendre leur poste au bois des buts. Où il y avait eu déjà beaucoup de morts, on se battait, on avançait un tout petit peu, on reculait, enfin. Et donc, ils venaient prendre la place de type, ils pouvaient dire, ils ne sont pas assez battus, ils ont reculé, enfin. Et ils attendaient, donc, toute l'après-midi, ils avaient attendu, vous savez ce que c'est, des militaires qui attendent, bon, ils étaient hors coup, quoi. Ils avaient réussi à se procurer du vin, ça avait picolé un peu. Et puis, au moment de la distribution des missions et tout ça, ils ont commencé à râler, à manifester tout ça à leur chef. Et le chef, il a transmis, mais le colonel n'était pas là. Et ça passait un grade au-dessus. Et les gradés, il a pris peur. Et puis quand il a fallu rectifier le tir, c'était trop tard.
Au-dessus du chemin des Dames, il y a la forêt de Vauclair, avec à son sommet une crête assez raide. On est presque en haut. Il y a partout des traces de la guerre. La forme des tranchées qu'on devine parfaitement sous le tapis de feuilles. Les trous de bombes, pleins d'eau, de boue. Quelques bunkers, des morceaux de métal, parfois des obus. Et plus rarement, des corps qu'on déterre. Au-dessus de moi, il y a un avion qui passe. Il y en a beaucoup parce qu'on est sur le couloir d'atterrissage de Roissy, en France. Et je n'arrête pas de me demander si le bruit de cet avion n'est pas la trace sonore des bombardements de 1917, comme si le ciel n'arrivait pas à oublier. Si le bruit de mes pas n'est pas l'empreinte sonore de ceux des combattants qui sont partis à l'assaut le matin du 16 avril 1917 au son des sifflet dégradé. Putain. Une grotte. Je vois une grotte là. J'essaie d'y aller. Attends. Aïe. Putain, c'est plein de ronces. Ah. Ça a l'air bouché un peu. Et là, j'ai une petite lampe. Je vais essayer de l'éclairer un peu pour me raconter ce que je vois. Ah. Je vais quand même pénétrer. Alors, hein, c'est muré. Et c'est... maçonné, il y a une voûte, c'est en pleine forêt, une voûte tout à fait arrondie comme une cave avec un peu d'eau au fond, et j'ai l'impression que quelqu'un a fait un mur pour pas qu'on aille plus loin, je ne sais pas. Quand on regarde un peu sous l'eau, il y a des pierres brisées, peut-être
des restes de, je sais pas, de charpente. Il y a un peu de... Si je jette un caillou, c'est pas très profond. Et c'est sans doute une, un reste de fortification. Hein. Enfin, de dessous de tranchées dans lesquelles on se planquait en cas de bombardement, comme moi en cas de pluie.
Au bord de la départementale 18, une stèle à la mémoire de Jean Roblin, mort pour la France à l'âge de 19 ans, et de ses camarades du 146e régiment d'infanterie, tombés avec lui le 18 mai 1917.
Oui, c'était un promeneur. C'est un promeneur qui a découvert sur le chemin, il a vu des ossements et il a rendu compte à la mairie ou la gendarmerie. Et toute la chaîne s'est mise en place pour procéder aux fouilles. Ici j'ai retrouvé déjà l'engin agricole avait retourné le champ pour ses cultures. Donc c'est là que le promeneur a découvert les ossements. Donc nous, moi avec un agent et moi-même, nous sommes allés à l'endroit, nous avons commencé à creuser. Et là, on a retrouvé des ossements, des munitions, des morceaux de cuir. Il y avait beaucoup de munitions aussi. Et par bonheur, on a retrouvé deux plaques d'identité. Donc on a pu identifier les soldats.
Déjà, quand vous avez trouvé des ossements et du cuir comme ça, vous étiez sûr que vous étiez en présence de corps. C'est dans un deuxième temps que vous avez retrouvé les plaques ?
Tout à fait, les plaques, on les a retrouvées à la dernière minute, quoi. En creusant encore 3-4 heures de fouille, et il y a un moment, on arrête, quoi. Et par bonheur, on retrouve deux plaques, quoi. Donc là, c'est principalement les os s'étaient concentrés, quoi. Donc, on a creusé sur un rayon de 3 mètres, et puis sur 60-70 de profondeur, et puis après, on arrête, quoi.
Là, vous saviez qu'il y avait au moins une personne, un soldat ?
En fonction des os, je ne suis pas connaisseur, mais il y avait au moins deux personnes, parce qu'il y avait trois fémurs déjà, et deux plaques.
Et après, vous avez pu voir vous parliez de cuir, peut-être de morceaux de tissu ?
Voilà, des anciennes cartouchières, un espèce de vieux porte-monnaie, et après beaucoup de cartouchières avec de la ferraille, quoi. Une cuillère, une grosse cuillère à soupe, puis des débris de métaux tout rouillés. Donc, le soldat était. Les ossements étaient concentrés sur. Avec la machine agricole qui a retourné, donc tous les ossements étaient concentrés. Donc je pense que tout le squelette avait bougé, quoi.
Alors, ça, c'est un peu votre travail, même si ça arrive pas tous les jours. À quoi on pense ?
En tant qu'ancien militaire, je pense déjà au devoir de mémoire. Et savoir que tous nos, je vais dire, mes frères d'armes de l'époque ont combattu ici et retrouver les ossements, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi.
Là, pour l'histoire de ces deux hommes, de ces deux soldats, vous avez retrouvé de la famille, vous avez contacté les uns et les autres.
Le pôle des sépultures de guerre a lancé une recherche. Alors, on a identifié donc deux soldats. Un soldat qui appartenait aux tirailleurs sénégalais, qui était originaire de Tombouctou, et un soldat d'origine bretonne. Et en fait, le pôle donc interroge pour une recherche de famille, et en fait, on retrouve la famille du soldat breton, le soldat Tardivel.
Qui était donc porté disparu depuis un siècle.
Oui. Alors une famille, c'est particulier comme histoire, puisque dans cette famille, il y a quatre fils, que les quatre fils sont partis à la guerre, et que sur les quatre fils, un seul revient de la guerre, mais décède quelques années après son retour. Le premier des fils, si je dis pas d'erreur, hein, parce que je peux aussi les confondre, il y en a un sûr qui décède et qui est inhumé dans une nécropole. un autre qui décède, qui est inhumé dans un cimetière provisoire, le front bouge, et en fait le cimetière est dévasté, et le corps disparaît. Et il y a le Francis, ce monsieur en fait, qui Tardivel, qui lui est porté disparu. Et en fait, c'est ce soldat qu'on retrouve sur le chemin des dames.
Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait lentement dans l'aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire, tout épanouie. Les ventres trop gonflés éclataient et l'homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules comme dans sa marche d'avant. Il ondulait des épaules comme à son habitude d'avant, quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s'en allaient de lui. Mais ça n'était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort, et au bout d'un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les rats revenaient.
Ici, la guerre a mobilisé des hommes venus parfois de loin, de très loin, de tous les continents.
16 avril 2017.
Je pense aux troupes indigènes d'Afrique du Nord.
100e anniversaire de la bataille du chemin des dames.
Tirailleurs, zouaves, spahis, qui se sont battus avec bravoure au chemin des dames, comme d'ailleurs dans toutes les grandes batailles de la guerre. Ces hommes avaient quitté leur famille, leur ville, leur village pour être précipités dans cette mêlée furieuse. Leur destin nous rappelle la dette que nous avons souscrite à l'égard des peuples du monde qui ont versé leur sang pour que nous puissions être libres. C'est cette créance que nous acquittons toutes les fois où nous sommes avec eux, côte à côte, pour lutter contre le terrorisme, pour bâtir un monde de paix et de développement partagé.
Ok, vous allez me donner un coup de main, vous allez mettre le long du mur. Assis.
Bandi, en Centrafrique, assis. Opération Sangaris, décembre 2013.
Allez, respire.
Ça va, gars.
Y'a d'appât.
Chut,
calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme. Respire tranquille. Respire tranquille. Mec, reste avec nous. Oh. Oh.
Oui, ok.
Respire.
Oh. T'énerve pas. T'énerve pas. Reste tranquille. Chut. 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 Regarde-moi. Regarde.
André.
Oh.
André. Ramène ta musette radio.
Respire tranquille. Les secours, ils arrivent. Bouge pas la jambe. Ça va aller. Ça va aller, il y a les secours qui arrivent.
Tu veux continuer à lui parler.
Allez, respire doucement, calme-toi. Essaie de respirer doucement. Allez, doucement, calme-toi, respire. Bouge pas. Ouvre les yeux. Allez. Tiens, serre-moi la main. Serre la main, si tu peux. Allez. Allez, calme-toi. Respire doucement.
Sur le chemin des dames, secteur de Craon.
désert près d'Oum Qassar, en Irak. Un reportage pour France Info, mars 2003.
Sur le chemin des dames, secteur de la ferme d'Urtebise.
Pétionville, en Haïti, en reportage pour France Inter, février 2004.
Sur le chemin des dames, secteur du fort de la Malmaison.
Younes dans la bande de Gaza, en reportage pour France Info, 11 novembre 2004.
Là, devant, devant toi. Christophe, Christophe, ok.
Hein? Franchement, on ne sait pas où aller, Jean-Marie.
Non, moi non plus, on se couche là, derrière les bagnoles, là, on se couche là.
Sur le chemin des dames, secteur de Corbeny. Au bord de la départementale 18, une stèle gravée. À la mémoire de notre fils bien-aimé, le sous-lieutenant Louis Astoul, tombé glorieusement dans ces parages à l'âge de 24 ans, au cours de l'assaut du 16 avril 1917 et de ses camarades.
Franchement,
j'avais un grand-père qui était artilleur, qui a combattu ici sur le chemin des dames. Un autre grand-père qui était zouave, qui a fait la bataille de l'Aisne, de la Marne aussi également. Et deux grands-oncles qui ont combattu aussi en Orient et à Verdun. Donc leur parcours militaire en quelque sorte m'a inspiré pour, en tant que peintre pour travailler sur le sujet.
Rien à voir. Bravo. Ça, je pense que j'ai proposé ça à mes clients quand j'ai des gros repas.
Elle achète le lait donc
à côté de chez elle.
Je pense que c'est arrivé avec
et elle a un produit en partie.
cette proximité du chemin des dames. Je me promène beaucoup ici dans la région, sur les chemins. Donc je promène mes chiens sur la voie verte, vers l'abbaye de Vauclair, etc. Donc j'ai cette vision de ce qui s'est passé, le terrain qui a accidenté, les cimetières. Il y a quand même un passé qui est assez lourd. Donc ça nourrit l'imaginaire, bien évidemment, lors des marches.
Et d'après ce qu'elle m'a montré, tu croirais du parmesan. Mmh. C'est un des fromages qu'il y avait par ici que je. Non, je ne sais plus lequel.
Là, c'est une œuvre qui représente un groupe de soldats. Donc, c'est du collage, collage et peinture.
Donc, il y a un journal ancien.
Il y a une photo qui se trouve mon grand-père avec un autre groupe de soldats. C'était en Bulgarie, il me semble. Et donc c'est du collage et par-dessus j'ai peint des soldats qui sont un petit peu décharnés, un petit peu entre la vie et la mort, et voilà, toujours cette notion de tristesse, d'horreur, etc.
Vous plaisantez ou quoi ? Non. Pour eux, vu la feuille, c'est complètement inconnu.
On est comme aspiré par le chemin des dames, et puis d'un autre côté on a envie d'en sortir. Parce que bon, c'est quand même relativement lourd. Il n'y a pas tellement d'animation, c'est assez calme. Et c'est vrai que des fois, c'est très très dur. Donc, en travaillant en plus sur ce sujet de 14-18, ça rajoute encore une couche à la dureté un petit peu du lieu. Donc, on a envie de s'en échapper. C'est vrai que. Mais on a envie d'y revenir quand même. Donc, voilà, c'est un petit peu. C'est très contradictoire et c'est assez particulier. Mais on a envie de s'y échapper quand même, parce qu'on est quand même happé. Il y a quelque chose qui se passe où on a du mal à s'en sortir.
Heure de faire tour. Levez-vous. Je vous appelle. Toi, soldat éternellement touché par la guerre, je t'appelle.
Sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats aux yeux rouges marchaient doucement, le long de la tranchée. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie, tout décharnés.
C'était un héritage qu'on n'a pas choisi, si vous voulez ça. Comme on ne choisit pas de naître ici ou ailleurs, quoi. En fin de compte, cet héritage-là n'est pas toujours facile à supporter. Ou alors on l'ignore. Moi, ce que j'aurais pu faire en revenant ici à la ferme, c'est d'ignorer toute cette histoire-là et de vivre comme tout le monde. Ça aurait peut-être été plus facile, la vie aurait peut-être été plus facile, mais j'aurais eu les mêmes ennuis. Alors, avec justement les conséquences du passage de cette guerre-là, et d'autres guerres d'ailleurs, sur ce territoire-là.
Vous dites que vous êtes revenu parce que vous étiez parti d'ici, vous êtes natif d'ici ?
Ah oui, je suis né ici, dans cette maison-là, vous voyez. Et mon père est né dans la maison d'à côté. Moi, ça fait. Notre famille, ça fait. Depuis 1650 ou 60 qu'on est ici, paysans, vous voyez. Donc, c'est pas comme d'hier. Vous savez, les petites fermes, encore maintenant, hein, ont du mal à. Les filles. À s'équiper. On nous dit toujours modernisez-vous, adaptez-vous. Mais on fait que ça toute notre vie, la paysannerie, on fait que ça. s'adapter, s'informer, réfléchir, imaginer l'avenir, faire des projets, mais on ne fait que ça dans la ferme. Alors on nous traite de péquenauds, mais c'est vrai qu'on est des paysans, on est fiers de l'être, mais quelque part on n'est pas comme différent des autres, on est toujours en train de rêver, on est toujours en train de se projeter dans l'avenir, tout en assumant les difficultés de la journée et du quotidien. Parce que vous savez, c'est pas facile d'être travailler la terre quand même. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Et donc c'est d'autant plus difficile qu'on est sur ce territoire-là. On a eu deux lignes, je crois, dans le livre d'histoire, ça doit être le livre de première ou de terminale. Il y avait deux lignes sur cette fameuse attaque de 1917, l'attaque Nivelle, qui a fait le plus de gros dégâts ici, hein, dans les quatre années. Bon, il y a eu toutes les quatre années difficiles, mais l'année 17 ici, c'est un carnage, quoi. On peut même pas dire, c'est le chaos, c'est presque le Big Bang, quoi, si vous voulez. Mais non, j'avais deux lignes sur les livres d'histoire de première, je crois, qui disaient attaque du chemin des dames ou attaque dans l'Inde. Non, attaque d'avril 17, échec, ce qu'on a appelé l'attaque Nivelle. Et un échec, bon, c'est tout. Voilà. Moi, je savais ça, sauf que inconsciemment, j'avais toute ma petite enfance ici. Donc, nous, depuis tout le temps, on est affrontés à ce que les adultes avaient, les anciens avaient, par rapport à ce territoire-là aussi. C'est-à-dire, moi, j'avais entendu parler de la reconstruction, j'entendais parler de boucher des trous d'obus, j'entendais parler des bêtes qui mouraient à cause des corps étrangers dus à la guerre, j'entendais parler d'une grenade avec qui avait explosé là, d'un obus qui avait explosé là. J'avais entendu parler, bien sûr, mais vous êtes inconscient quand vous avez jusque l'âge de 10 ans. Moi, je suis parti en pension à l'âge de 10 ans. De 0 à 10 ans, j'ai vécu dans cette ambiance-là. Donc, sans le vouloir, cette histoire-là vous rentre dans votre inconscient et que plus tard, votre conscient vous révèle, quoi. Donc, moi, la réalité de cette histoire qui s'était passée ici, je ne l'ai pas découvert à l'école, sur les bancs de l'école, ni de la fac, ni d'ailleurs. Je l'ai découvert les pieds dans la terre. Et surtout, avec un intermédiaire, un interlocuteur qui a été pour moi... comment dire, irremplaçable. Et puis, c'était mon grand-père, quoi, qui était né au siècle dernier, c'est-à-dire pas le 20e, le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui était né ici, qui était parti avec son village en entier, quoi, son territoire, avec toute la beauté de la nature qu'il y avait à l'époque, au début du siècle, puis qui est revenu dans un enfer, quoi. Après un enfer, si vous voulez. Donc c'est ça qui m'a appris le plus, c'est cette relation-là, directe avec mon grand-père, qui m'a révélé en fin de compte plus que l'histoire du coin, la mémoire du coin. Parce que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pour moi il y a une grande différence entre l'histoire et la mémoire. Il y a une grande différence. Pour nous, la guerre 14-18, c'est encore demain, c'est pas hier. La cause, c'était hier, mais pour nous la guerre, elle va durer longtemps encore. Du fait de ce que vous recherchez, les traces, les corps étrangers que la guerre a laissés sur ce terrain-là, vous voyez, les tire-bouchons, vous savez ce que c'est que les tire-bouchons, les queues de cochon, c'est des piquets en fer, si vous voulez, qui servaient à tendre les barbelés de la guerre, les obus, les horizons du sol qui sont complètement perturbés, tout ça, ça va durer encore des siècles, quoi. Et si vous parlez aux archéologues ou aux géologues, ils vous disent que sur des terrains comme ceux-là, sur des territoires comme celui-là, où tout le front d'ailleurs, hein, moins là où ça s'est remis en culture depuis longtemps. Mais nous, là où il y a encore de la zone rouge, où c'est accidenté, il reste énormément. Vous voyez, dans ces bois-là, il reste énormément. Encore pas seulement de tire-bouchons, de piquets, de barbelés, d'obus, de grenades, de corps. Voilà. Là, il y a encore partout, quoi, des corps. Donc ça, c'est pour nous, ça va durer encore, pour revenir à ce que je disais, les géologues et les archéologues nous disent 3, 4 siècles, on ne sait pas. 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, on ne sait pas. Un obus, on ne sait pas combien de temps il va rester actif dans la terre. On ne sait pas encore. Même si on calcule son degré d'érosion par an, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire.
Il faut dire en plus qu'avec tout ce qui était bombardement, pour un agriculteur, la terre même a changé.
Oui, oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de perturber les horizons agricoles, agraires. Quand vous êtes venu me voir hier, je partais pour couper un arbre qui était tombé, tout ça. Mais le gamin me dit, le gamin jeune me dit, si vous allez là-bas, on a sorti une roche. Donc hier, j'ai passé une demi-heure à sortir une roche en labourant, vous voyez, en travaillant la terre comme ça. Et ici, ça se passe encore par endroits. Et il a sorti une roche, il dit, bah, comment on va semer, les semoirs, c'est des outils fragiles. Il m'a dit, bah, si vous pouvez la sortir et puis la mettre dans un trou d'obus, donc c'est ce que j'ai fait hier. J'ai sorti une roche, mais moi j'en sortais sans arrêt des roches. On cassait notre charrue sans arrêt. On a eu des, en plus de l'impact de la guerre sur les animaux, on a eu des impacts sur notre matériel qui je peux pas vous raconter ça. Il faudrait 8 jours pour le raconter, quoi. Là, il y a des endroits où vous avez 30, 40, 50 centimètres de terre arable, de bonne terre. Quand vous avez un obus qui est capable de percer sur 3, 4 mètres. Eh bien, il va jusque la roche-mère, vous savez, et il remélange les horizons supérieurs avec la roche-mère du fond. Et donc, depuis 7, 8 000 ans, 10 000 ans, peut-être contre 8 000 ans, à peu près 7, 8 000 ans, la vallée de l'Aisne, où l'homme est là, où, après le néolithique, si vous voulez, depuis tant que l'homme travaille la terre, ben, petit à petit, c'est comme en Corse, c'est comme en Aveyron, les gens ont retiré les pierres, on fait des murs, et tout ça, nous, on les retirait, on faisait les chemins, et tout ça, parce qu'on en a moins que quand même. Mais la guerre arrive, et elle remélange tout. Donc on a presque 7000 ans de travail, si on voulait, à refaire, pour arriver à une terre qui était... Pour ça, tout à l'heure, vous disiez de réparer, c'est plus soigner, parce que c'est en profondeur, c'est une maladie profonde qu'elle a eue là. C'est une maladie presque incurable. Et maintenant, elle devient incurable, parce que, vous voyez, sur un territoire comme ça, on était peut-être 300, oui, 350 à travailler. Maintenant, on est 3 à travailler, 4 à travailler. Donc vous imaginez, et la pierre, elle ne monte pas toute seule dans la remorque hein, pour partir. Moi, je vais labourer, quand j'allais labourer, je me souviens, une parcelle là-bas au long du front, au long de la zone rouge, j'ai cassé ma charrue, je ne sais pas combien de fois, sur cet abri allemand-là en ferraille. Il y avait un abri avec des rails de chemin de fer allemand, et on ne l'avait pas retiré complètement, et sans arrêt, les rails remontaient, j'arrivais avec la charrue dedans, je pétais ma charrue, quoi. Donc je revenais, je piquais une crise, parce que fallait réparer, puis que j'avais pas trop les moyens. Et grand-père était là, heureusement, il disait, mais attends, t'énerve pas... Je dis, oui, mais grand-père, je dis, mais moi, je fais 2 hectares par jour, les copains en font 7 dans la journée, moi, je peux plus être compétitif. Alors, il comprenait sans comprendre, il voulait pas que je subisse ça, quoi. Alors, il me consolait. Alors, je réparais, puis je retournais. Puis, petit à petit, bon, cet abri-là, j'ai cassé moi 3 fois ma charrue. C'est pas évident, vous savez, hein, c'est, bon, c'est un exemple parmi d'autres, quoi, mais c'est sans arrêt. La guerre nous harcèle encore, et nous harcèlera encore longtemps. Donc c'est pas, pour moi c'est pas des traces, c'est comme une blessure que vous avez qui vous fait mal tout le temps quoi, hein, c'est ça quoi. C'est-à-dire quand vous voyez des belles vaches aller crever parce qu'ils ont avalé un barbelé que vous avez pas vu qu'elle était piquée par un barbelé, que vous avez tout juste les moyens, que vous avez pas de, nous on parlait même pas de SMIC, hein. Moi il y a des mois je gagnais rien, il y a des années je gagnais rien, il y a des années je perdais de l'argent quoi. Vous savez, quand vous arrivez au bout de l'année puis que vous n'avez pas gagné un rond puis que vous avez augmenté votre dette au Crédit Agricole, vous vous dites comment je vais m'en sortir quoi. Et ça, c'est un handicap aussi, vous savez, pour travailler comme il faut, pour avoir le moral. Pour... C'est dur des fois. Mais enfin bon, allez, on est récompensé puisqu'il y a la jeunesse derrière. On est récompensé puisqu'il y a des jeunes là. Et vous voyez, on fait du maraîchage maintenant. Et alors voilà, la récompense pour nous, ma récompense à moi. Enfin, je pense qu'à mes parents, mes grands-parents, c'était que je revienne. Puis moi, ma récompense, c'est que derrière, reviennent. Mais la récompense du sol, c'est autre chose. C'est qu'on est en bio maintenant. On est tout en bio. Ce terrain-là qui a tellement martyrisé, sacrifié, vous voyez. Eh bien, moi, je fais du bio depuis une quarantaine d'années dans mes prairies. Tous ces prairies-là, si vous voulez, ça fait 40, bientôt plus que ça, parce que ça fait 7 ans que je suis revenu. Ça va faire 50 ans, même mes parents avant, qui n'ont jamais eu de produits chimiques, qui n'ont jamais eu d'engrais, qui n'ont jamais eu que... Donc, pour le sol, c'est une récompense. Moi, la récompense, c'est sociale et puis familiale. Et puis, pour le sol, la récompense, c'est que, c'est un petit peu exagéré, je veux dire, mais c'est un acte d'amour qu'on fait, quoi, en la respectant. Vous voyez, c'est... Et moi, ma crainte ce matin, je vais vous faire une réflexion que j'ai dit ce matin. Ma crainte, c'est que, vous voyez, quand on se lève, on regarde le ciel, nous. Et ma crainte, c'est qu'ils vont semer. Et l'expérience fait que, qui vient aussi de nos générations précédentes, quoi. Quand vous travaillez la terre, vous voyez, quand elle est, faut pas la travailler trop fraîche, là, ça va aller. Mais surtout, faut pas qu'il pleuve derrière. Là, ils vont semer. Surtout aujourd'hui, faut pas qu'il pleuve pendant une journée et nuit. Faut que la terre se ressèche, qu'elle reprenne sa structure. Et après, elle supportera tout, quoi. Mais dès que vous l'avez travaillée et qu'il pleut aussitôt, c'est foutu, quoi. Donc, on est toujours entre faire et pas faire, quoi. Entre dire on y va, on n'y va pas. C'est parfois... Quand on se posait des questions, qu'on se disait, j'y vais pas, comme je vous disais tout à l'heure, je fais, je vais pas, je rentre dans... Bon. Les vieux nous disaient, attends, touche à ta terre quand elle est amoureuse. C'est-à-dire que faut pas qu'elle soit trop fraîche, faut pas qu'elle soit trop sèche. Tu y touches, et quand elle est amoureuse, juste quand elle est amoureuse, tu la prends. Voilà. Voilà le conseil que les anciens nous disaient.
Pas trop humide.
Pas trop humide, qu'elle te colle pas trop aux doigts. Puis pas trop sèche, qu'elle soit trop dure. Qu'elle soit amoureuse. Voilà. Alors après, chacun comprend ce qu'il veut dans ce mot-là. Mais on peut pas quitter un sol comme celui-là. D'ailleurs, c'est contradictoire. Vous avez pensé que c'est contradictoire. Mais c'est l'histoire de cette terre-là, et notamment l'histoire du début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, qui a fait que j'ai pu rester. Si j'avais pas eu cet échappatoire-là, si vous voulez, pour m'épanouir ou pour quitter la difficulté, ce travail aussi dur, si vous voulez. Si j'avais pas eu cette histoire-là à réveiller, à comprendre, à travailler, voyez, à partager, je pense que j'aurais été vraiment malheureux, quoi. Je pense que j'aurais pas su supporter l'isolement social qu'il y a quand vous êtes paysan. J'aurais pas su supporter ça. Même si vous êtes à la pointe du progrès. Parce que, faut pas croire, les paysans, ils font pas que caresser le cul de leur vache. Et comme on le dit, quoi, les paysans ont autre chose dans la tête, si vous voulez. Et caresser le cul de la vache, c'est une récompense qu'on a. Vous voyez? Mais, si j'avais pas eu cette histoire-là, je pense que j'aurais eu une vie tout à fait différente. Même si parfois, comme vous dites, les bras m'en tombent, comme on dit des fois, vous portez plus vos bras, quoi. Ni vos jambes, d'ailleurs. Mais si j'avais pas eu cette histoire-là de comment dire, du martyr que des hommes qui sont passés ici, qui venaient de partout, si j'avais pas eu cette histoire-là à découvrir, à faire partager, à apprendre aux autres, quoi, un peu, parce que j'ai plus appris par le sol que par les livres, quoi. J'espère qu'on entendra plus souvent d'obus éclater ici, quoi. Mais qui sait, quoi. Mais je pense que quand j'aurai fini ma vie, je pense que c'est de ça que je penserai. C'est à ça. Me dire, est-ce que les jeunes sont vraiment à l'abri au moins de cet accident-là, quoi. C'est de ce piège-là.
Empreinte sur le chemin des dames. Par Jean-Marie Porcher et Isabelle Souquet. Avec Alexandre Morel, Philippe Boisseau, Didienne Bic, Hélène Luisin, Olivier Poujade, Martine Vessière, Laurent Tourier, Noël Janteur. Texte de Jean Giono, lu par Gérard Cognier. Extrait du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick et de J'accuse d'Abel Gance. Groupe de réalisation Jean-Baptiste Etcheparobord, Lionel Quentin, Chouchane Djergaillan, Irène Omelianenko.
Il est possible de podcaster ou réécouter cette émission sur notre site. La semaine prochaine, dans Création On Air, deux expériences. Mercredi, jouer avec ses haut-parleurs grâce à Radio Acousmomium par Léo Duquesne. Jeudi, Code de la déconduite par Antonia Taddei et Ludovic Nobilo.